France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour d'économie dans le noir ce soir.
Well, the impact of President Trump's tariffs is being felt around the world. European and Asian stocks are seeing drops.
Voilà un extrait du Morning News de CBS ce matin sur les résultats boursiers à la fois en Asie, en Europe et puis bientôt donc aussi aux États-Unis. Bonsoir Jean Tirole.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président honoraire de la Toulouse School of Economics. Vous êtes aussi prix Nobel d'économie 2014. Avec vous, on va tâcher, Jean Tirole, de regarder un peu plus haut ce qu'il advient de l'économie mondiale depuis que Trump l'a secoué très très fort. Surtout, quel monde économique va émerger de ce moment. Avant cela, juste quand même une question sur la journée yo-yo à la bourse qu'on vient de vivre. Est-ce que vous diriez-vous qu'il faut avant tout comprendre qu'on est entré dans un nouveau monde économique désormais et que des neat pools comme cela, désormais, il y en a partout sur la route ou pas?
On ne sait pas, à vrai dire. Il y a beaucoup d'incertitudes et la bourse n'aime pas l'incertitude. Maintenant, c'est vrai que la situation est grave si Trump maintient ses droits de douane. C'est très mauvais pour l'économie mondiale, c'est très mauvais pour l'économie américaine aussi, il ne faut pas l'oublier, et c'est mauvais pour nous. Donc il va falloir trouver des solutions. Maintenant, est-ce que ça va se résoudre ou pas? Nous ne le savons pas encore.
Est-ce que ça va se résoudre ou pas, dites-vous? Et en même temps, on voit bien qu'il commence doucement lui aussi à négocier. On sent bien qu'il se fait mal également lui et que donc peut-être il reviendra en arrière. Est-ce que c'est aussi ça qu'on peut avoir en tête, même si c'est... J'ai l'impression que c'est même contraire à toutes les règles économiques, mais néanmoins c'est ce qu'on voit depuis quelques semaines.
Oui, les économistes sont dans l'ensemble très contre le protectionnisme. Le protectionnisme a au moins deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il fait payer des droits de douane aux consommateurs. Et il ne faut pas oublier que les principales victimes de la politique de Trump sont les consommateurs américains. Voilà. Donc, et en plus, ces consommateurs vont être soumis à des monopoles, puisqu'il n'y aura pas la concurrence étrangère pour faire concurrence. Donc, les prix vont être élevés, ça va créer de l'inflation et ça va pas être bon pour les consommateurs. Alors, bien sûr, ça va être aussi mauvais pour nos exportateurs, pour les exportateurs européens, asiatiques et autres. Donc, il y a finalement beaucoup à perdre dans ce jeu.
Mais quand on essaye de regarder les choses de haut, Jean Tirole, est-ce qu'on se dit que finalement, c'est peut-être la très mauvaise réponse? Et la très mauvaise méthode a peut-être une bonne question, et peut-être que c'est là qu'il nous emmène Trump aujourd'hui, c'est-à-dire une économie qui en effet était déséquilibrée, où les États-Unis effectivement sont déficitaires sur certaines de leurs balances commerciales, où les Chinois trichent avec les règles de l'OMC. Donc ce qui revient à dire que les droits de douane, c'est pas un instrument, c'est un levier de rapport de force, et en cela, peut-être qu'il a réussi son coup, non ?
Alors je crois que Trump, depuis très longtemps en fait, est en faveur des droits de douane, bien avant l'émergence de la Chine. C'est quelque chose auquel il croit très profondément. Ça pose quand même des problèmes. Il veut faire ça pour financer les impôts, une baisse d'impôts. Alors là, c'est un peu une nostalgie du 19e siècle. Le droit de douane finançait une grande partie du revenu fédéral. Il veut aussi faire ça pour rapatrier les industries aux États-Unis. Alors, il a eu quelques succès à ce titre. Apple, Nvidia, TSMC, les Taïwanais ont promis d'investir aux États-Unis, mais ça prend beaucoup de temps déjà. Et on n'investit pas si on ne pense pas que les droits de douane... Si on pense que les droits de douane ne vont pas rester, évidemment, parce qu'on a toujours cette incertitude. Donc c'est un peu sa vision des choses. Il essaie aussi de rapatrier en faisant baisser le dollar. Donc ça va être une autre source d'inflation pour les Américains. C'est un peu sa philosophie.
Jean Tirole, on sent bien qu'il attend qu'on renégocie chacun au gré à gré. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Le Bangladesh essaye de son côté à cause de ses vêtements. Le Japon le fait également. L'Europe sur les biens industriels. Pour l'instant, l'Europe ensemble d'ailleurs. Est-ce que le grand risque n'est pas que chacun, et je parle de nous les Européens, mais que de finalement chaque pays y aille au gré à gré? Et est-ce que ça aussi, c'est pas l'un des buts au fond, c'est-à-dire la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît, et désormais le gré à gré, le one-to-one d'un pays à un autre, des États-Unis vers un autre pays à chaque fois?
Oui, vous avez tout à fait raison. Le danger, c'est que nous y allions en ordre dispersé, pas seulement les pays, mais aussi les industries, les entreprises. Tout le monde va négocier. Il y en avait déjà 50 pays qui essaient de négocier avec les États-Unis aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas unis, nous aurons vraiment du mal, parce qu'ils pourront... Enfin, ils le disent très ouvertement, d'ailleurs. On aura vraiment du mal à résister. Et ne rien faire, c'est pas une solution non plus. Concéder pour essayer de négocier des tarifs plus bas, des droits de douane plus bas, c'est pas une solution non plus, parce qu'on va avoir des choses en échange qui vont nous coûter très cher. Si par exemple on abandonne le droit de la concurrence contre les GAFA, on abandonne la protection de la vie privée, on abandonne la géopolitique et beaucoup d'autres choses, finalement les États-Unis auront eu leur ce qu'ils voulaient à coût nul, parce qu'ils n'auront même pas le coût pour leurs consommateurs.
Et en même temps, là vous avez cité les GAFAM, notamment Jean Tirole, est-ce que c'est ça, nous, le coup que nous avons à jouer en Europe? Si on a une carte à jouer, si on a les moyens de la jouer, est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut taper, c'est-à-dire Arro sur la tech, notamment?
Alors, peut-être, faut peut-être parler un petit peu des représailles qu'on pourrait avoir. Ouais. Donc, on peut d'abord avoir des représailles tarifaires, c'est-à-dire, vous nous mettez 20%, on vous met 20%. Alors, on peut le faire, dans le rapport de force, c'est pas idiot, seulement ça va faire beaucoup d'inflation pour nos consommateurs, dans une situation qui est un petit peu difficile déjà économiquement et politiquement. Donc, il y a d'autres façons de faire. Vous parliez des GAFA, mais les GAFA, on fait du droit de la concurrence, non pas pour affecter les Américains. On fait ça déjà parce que elles ont beaucoup de pouvoir de marché et ça crée des distorsions. Donc, il faut continuer à faire du droit de la concurrence. Il faut continuer à protéger la vie privée. Il faut aussi arriver à construire l'euro digital, par exemple. On peut faire l'euro digital. C'est-à-dire, aujourd'hui, les moyens de paiement numériques sont américains. C'est Visa, Mastercard, c'est de plus en plus les cryptocurrencies qu'on voit émerger comme teaser là, américain. C'est PayPal, c'est Apple Pay. L'euro digital fait par la BCE serait très bien.
Donc ça veut dire que vous pensez, si je vous lis bien, Jean Tirole, que quand même, il y a peut-être une opportunité là derrière, nous, de nous émanciper, d'imposer, de continuer à imposer nos règles, et surtout d'aller plus vite, en fait, dans nos réponses, y compris nos réponses tech. On a les moyens de faire ça ou pas?
Alors, je pense qu'il faut d'abord continuer à faire ce qu'on voulait faire de toute façon. Et je rajoute d'ailleurs la taxe d'ajustement carbone aux frontières pour protéger contre le dumping environnemental, ce qu'on voulait faire de toute façon. Donc, il faut continuer à faire ça parce qu'on l'aurait fait de toute façon. Il faut pas céder là-dessus. Ensuite, on peut imaginer d'autres moyens de représailles. Hein, donc, des tarifs, on en parlait, ça a un coût. Ça peut être aussi des taxes sur les multinationales américaines. Hein. On peut taxer Amazon, on peut taxer Twitter, on peut X Twitter, Tesla et compagnie.
Et s'ils décident de nous déserter, de déserter l'Europe, en représailles justement, en disant, ben, vous nous taxez plus, très bien, merci, au revoir. On sait bien qu'il y a une partie de l'Europe qui dira, ben, écoutez, bon vent, mais l'autre partie qui dira, attendez, on n'a pas de substituts, on ne les a pas, on n'a pas su les créer, on en a quelques-uns, on a Mistral pour l'IA, on a des choses comme ça, mais pas assez finalement.
Oui, alors il y a des choses dont on a besoin, je pense en particulier à certains aspects d'équipement de défense. Hein. Malheureusement, on a désinvesti pendant des décennies, et donc là, nous sommes tributaires des Américains, donc c'est quand même très grave. Après, il y a des choses dont on n'a pas forcément besoin. Si on n'a pas Facebook et ses énormes revenus publicitaires qui ont un impact plutôt négatif sur nos citoyens, c'est pas très grave. Donc il faut savoir discerner aussi entre les différents. Mais c'est vrai qu'on a un très gros retard sur l'innovation et ça c'est notre faute. De même que notre désinvestissement en défense. C'est de notre faute. Donc, l'innovation, il va falloir changer ce qu'on fait, puisqu'on est complètement tributaire des États-Unis pour tout ce qui est tech.
Il va falloir qu'on change, et en même temps, j'imagine que ça peut pas se faire, évidemment, du jour au lendemain. Dans le rapport Draghi que vous aviez soutenu, Jean Tirole, vous aviez parlé, enfin, on parlait d'une lente agonie de l'Europe, d'entreprises vieillissantes et d'Américains qui ont 40 ans d'avance. Même si on accélère subitement parce que Trump nous fait accélérer, est-ce que rattraper ce retard vous semble de toute façon atteignable?
Non, on ne va pas rattraper ce retard avant le midterm américain, ça c'est clair.
Ça c'est sûr. Mais même le midterm, ça me paraît très court en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut quand même le faire, absolument, ne serait-ce que pour être prêt. Il faut aussi changer l'emphase. C'est-à-dire que l'Europe, on avait regardé dans un rapport fait ici, on avait regardé un petit peu dans quoi le secteur privé investit.
En R&D.
Essentiellement, c'est dans l'automobile.
Okay.
Et c'est alors que l'automobile européenne, on le sait, est très menacée par le véhicule autonome et par les véhicules électriques américains et chinois. Donc on investit, alors que les Américains, le secteur privé, investit 85% dans la tech. Et investit beaucoup plus. Donc on voit très bien le déséquilibre entre les deux. C'est pour ça que nous sommes tributaires pour beaucoup de services des Américains.
Et en même temps, vous dites que les Américains investissent dans la tech, ce qui est vrai. Ils investissaient encore dans tellement d'autres choses, tellement de recherche et développement en matière de santé, en matière de, dans tous ces secteurs qui sont des secteurs clés. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai? On voit ce qui se passe avec la science, on voit ce qui se passe dans certaines universités. Est-ce que vous vous dites que même les États-Unis, au fond, qui avaient cette audace-là, risquent de la perdre et que les conséquences, pour le coup, là aussi, iront bien au-delà des États-Unis? Elles nous toucheront aussi très directement.
Oui, les choses peuvent aller très vite. Il faut se souvenir que dans les années 30, les États-Unis n'existaient presque pas scientifiquement. Je crois qu'il y avait à peu près 5 prix Nobel en 30 ans. Aujourd'hui, c'est 75% des prix Nobel parce qu'ils attirent la science du monde entier. Et de ce côté-là, Trump est un peu notre meilleur allié puisqu'il est en train de détruire un certain nombre de pans de la science aux États-Unis. Et vous parliez de, par exemple, la biologie. On voit ce qu'ils sont en train de faire avec la NIH, donc le financement de la santé, de la recherche en santé. C'est 47 milliards par an qui est diffusé à plus de 80% dans les universités, dans les entreprises. Et aujourd'hui, c'est une déroute totale. Oui. Donc on voit très bien, j'étais il y a 3 semaines au MIT, on voit très bien la difficulté qu'ont nos collègues. Ce sont des menaces permanentes, des menaces sur leur budget, des menaces sur leur capital, parce que les universités ont patiemment accumulé du capital. Et là, on voit qu'un certain nombre de chercheurs veulent partir des États-Unis.
Mais est-ce qu'on est capable, nous, alors j'allais même pas dire en France, mais en Europe, de les accueillir, ces chercheurs-là? Est-ce qu'ils iront plutôt vers l'Asie? Est-ce qu'ils iront plus au Royaume-Uni, par exemple, plutôt qu'en France?
Alors c'est un peu une source d'inquiétude, puisque effectivement, les salaires sont beaucoup plus élevés aux États-Unis, les bourses de recherche, les équipements sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis. Donc ils auront tendance plutôt à se tourner vers le Canada, vers l'Angleterre, vers la Suisse, vers Singapour, vers la Chine, qui ont des conditions, qui dépensent plus pour leur système universitaire et le dépensent de façon effectivement un peu du côté des stars. Il faut bien dire ce qu'il y a. Il y a une discrimination assez forte entre les chercheurs et ils veulent tous attirer les stars. Et donc, ça va être un peu compliqué pour nous en Europe d'attirer les gens. Alors, il y a quelques centres, hein, je pense au Max Planck Institute en Allemagne, à Bocconi en Italie, des centres un peu de prestige et très bien financés qui vont accueillir des gens. J'espère qu'en France, on va en accueillir, mais il va falloir accepter, par exemple, de payer un peu plus. Jamais, évidemment, égaler les salaires américains, ça n'a aucun sens, on ne pourrait pas le faire, mais au moins essayer de donner des conditions de travail un peu meilleures pour les chercheurs les plus prestigieux, sinon on n'y arrivera jamais.
Sinon on n'y arrivera jamais, ce sera votre phrase de conclusion, Jean Tirole. Merci beaucoup, vous êtes président honoraire du Toulouse School of Economics et vous êtes aussi prix Nobel d'économie 2014. Merci beaucoup de votre passage chez
nous. Merci beaucoup.
La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Nous sommes en Inde, qui a vu revenir par des avions militaires américains ces migrants illégaux. Ça jette un froid quand même dans l'amitié maudite Trump. Pour aller jusqu'à 19h, Christelle Robière sous les radars.
Et nous irons en Belgique où le frère du roi, le prince Laurent, aurait bien aimé avoir droit à la sécu.
Le monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Salut Franck.
Salut Fabienne, bonsoir à tous. Poutine continue à repousser l'idée d'une trêve en Ukraine. De quoi peut-être agacer Trump?
Allez, Cyril Sauvageau, c'est la BO du Monde, juste avant 19h. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, on s'intéressera à la Serbie et à la bande-son du mouvement étudiant contre la corruption. Au menu, un tube yougoslave des années 80 et des clubs techno de Belgrade qui soutiennent la mobilisation.
Allez, tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. C'est là que s'est formé Arad Kilo. Et le morceau s'appelle Nbendia. Il est en playlist sur France Inter. Benia.
Easy like a Sunday moon. Fair girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep 8 despite the war. That way I can fight some more. Fight for peace seeps out my pores. I put in work before the school.
Le reportage d'un jour dans le monde est en Inde ce soir. L'Inde qui, depuis le retour de Donald Trump, a vu revenir à bord d'avions militaires presque 700 Indiens qui avaient tenté d'entrer illégalement aux États-Unis. Retour au pays brutal, sans recours ni avertissement préalable, et c'est pas fini. L'Inde accepte ses ressortissants et promet de lutter aussi contre les passeurs, mais grand malaise quand même devant ces expulsions humiliantes pour la plupart, avec un Premier ministre, Narendra Modi, mis en difficulté par son ami Donald Trump. Nous allons dans le Punjab, un état d'où beaucoup d'Indiens empruntent les routes de l'immigration illégale, et le reste, c'est Combastin qui raconte.
Le 16 février, un avion militaire américain C-17 perce le brouillard hivernal à Amritsar, dans l'état indien du Punjab. L'agriculteur Mangal Singh ne le sait pas encore, mais son petit-fils, Jasnour, est à bord.
Voilà plus de 6 mois qu'il était parti sur les routes de l'immigration illégale. De nombreux enfants du coin ont traversé la frontière des États-Unis comme cela. Mais c'est en voyant son nom à la télévision que j'ai compris qu'il avait été arrêté, expulsé. Je savais qu'avec Trump au pouvoir, ses chances de rentrer étaient encore plus minces. J'ai été choqué par la brutalité de son expulsion.
Sans concertation avec les consulats indiens, les migrants voyagent enchaînés comme des criminels pendant 20 heures sans être informés de ce qui leur arrive. L'opposition indienne a manifesté contre cette méthode brutale. Nous retrouvons Jasnour Singh, 21 ans, dans la ferme de son grand-père. Après une enfance heureuse, il s'est retrouvé, comme beaucoup de ses amis, au chômage.
J'ai demandé un visa étudiant pour le Canada et le Royaume-Uni, mais les deux ont été refusés. Des amis m'ont donné le numéro d'un passeur. Le 14 juin, j'ai pris un avion pour le Suriname. Nous avons traversé la Guyane, le Brésil, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Guatemala, puis le Mexique. Nous alternions entre bus et taxi et roulions plusieurs jours d'affilée sans nous reposer, avec un repas tous les 2 jours.
Au total, Jasnour aura versé plus de 40 000 euros aux passeurs avant d'être expulsé. Les Indiens sont devenus la troisième population de migrants illégaux aux États-Unis, derrière le Mexique et le Salvador. Certains sont prêts à tout risquer pour le rêve américain. Daler Singh, 37 ans, a lui aussi été récemment expulsé.
J'ai travaillé 17 ans comme chauffeur dans les pays du Golfe, mais il est impossible d'y obtenir un visa permanent. Des passeurs m'ont envoyé au Brésil, d'où j'ai demandé un visa pour les États-Unis, qui m'a été refusé. À ce moment-là, je leur avais déjà versé 60 000 euros. Je n'avais plus que 2 options, perdre mon argent ou prendre les routes illégales. Aujourd'hui, j'ai tout perdu et je ne sais pas comment je vais rembourser les prêts ni récupérer les terrains que j'ai hypothéqués pour partir.
Narendra Modi est soucieux de conserver la bonne relation qu'il a cultivée avec Donald Trump lors de son premier mandat. Il promet de lutter contre l'émigration. Plus de 1200 descentes policières ont été menées contre les passeurs ces dernières semaines. Catherine Ada, ancienne consul générale des États-Unis dans la ville indienne d'Hyderabad.
Pour l'instant, les critiques de l'opposition se concentrent sur les conditions d'expulsion des Indiens, plus que sur les expulsions elles-mêmes. Mais il faut savoir que Narendra Modi et Donald Trump se sont récemment mis d'accord sur 20 000 Indiens expulsables des États-Unis. Et ce chiffre est 10 fois plus élevé selon le département de la sécurité intérieure. Si ces expulsions touchent beaucoup plus d'Indiens, cela va devenir controversé sur le plan de l'opinion publique.
Pour l'instant, les migrants indiens en situation légale aux États-Unis ne sont pas menacés. Cependant, la base la plus radicale des partisans de Donald Trump réclame une réduction drastique des visas étudiants, et la diaspora indienne ne se sent plus à l'abri.
Combastin, pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rebière.
Les l'avocat du prince Laurent devant le tribunal du travail à Bruxelles.
Et nous sommes donc en Belgique, Christelle, où le frère du roi, le prince Laurent, donc, veut bénéficier de la sécurité sociale.
Oui, comme n'importe quel autre citoyen, il considère que son travail pour la monarchie, c'est-à-dire une centaine de visites et de missions de représentation chaque année, doit lui donner droit à une protection sociale pour lui et sa famille. La justice se retrouve donc face à un litige particulièrement singulier. Certes, le prince n'est pas salarié, mais il reçoit une dotation qui s'élevait l'an dernier à la modique somme de 388 000 euros. Ses détracteurs disent qu'il a de quoi se payer une confortable assurance privée, mais il n'en démord pas. Pour lui, ce n'est pas une question de moyens financiers, mais de reconnaissance sociale. Et il y a quelques mois, au moment où cette affaire a été examinée par le tribunal du travail, il a osé une comparaison pour le moins douteuse.
Quand un migrant vient ici, il s'inscrit, il a droit à ça. Moi, je suis peut-être aussi un migrant.
Ajoutant un migrant dont la famille a tout de même mis l'État en place. Ni cet argument, ni les autres n'ont plaidé en sa faveur. C'est non. La Cour de Bruxelles a tranché cet après-midi. Pas de sécu pour le prince.
Nous voici en Louisiane pour une condamnation inédite.
Le groupe pétrolier américain Chevron, qui avait racheté Texaco en 2001, va devoir verser 745 millions de dollars d'indemnité pour avoir pollué des marais proches de la Nouvelle-Orléans et n'avoir rien fait pour les remettre en état. Il s'agit d'un endroit baptisé Pointe à la Hache, dans la collectivité de Plaquemine, une zone marécageuse dans le sud-est de l'État. Une loi prévoit depuis 47 ans qu'une fois les opérations d'extraction de pétrole terminées, chaque site doit être déblayé, replanté, nettoyé et remis dans un état aussi proche que possible qu'auparavant. Mais Chevron et Texaco n'ont rien fait. Or, cette inaction a provoqué l'inondation perpétuelle de ces marais. Ils sont désormais immergés. L'affaire dure depuis 12 ans. Chevron fait appel, bien sûr. Mais c'est un début. 42 affaires similaires doivent être jugées et le montant colossal de l'amende va polluer à coup sûr les comptes du pétrolier américain.
Enfin, nous partons courir le marathon, enfin surtout vous, hein, en Corée du Nord.
Pas tellement non plus. Ça faisait 6 ans que le pays le plus fermé du monde ne l'avait pas organisé, c'est-à-dire avant le Covid. 200 coureurs hier sur la ligne de départ, nord-coréens, chinois, marocains, éthiopiens. C'est le plus grand événement sportif international de ce pays, dans les rues de la capitale. Il est organisé chaque année en avril, au moment de l'anniversaire du dirigeant fondateur Kim Il-sung, et s'achève bien sûr dans le stade du même nom. Une foule de travailleurs et d'adolescents étaient venus faire la claque. Les participants, eux, pris en charge par un tour opérateur chinois, avaient une formule circuit de 6 jours pour 2200 euros. D'après l'agence de presse chinoise, le marathon aurait été remporté par un Nord-Coréen, bien sûr. Mais au-delà de la course, c'est un signe tangible de la réouverture de ce pays aux touristes étrangers.
Christelle Robien, merci beaucoup. Vous reviendrez demain, ne courez pas trop vite vers la sortie, sans profiter de Toc 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 et sa reprise d'un vrai standard américain de Gilberto Sullivan, Alone Again, sur Inter.
In a little while from now, if I'm not feeling any less out, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. And climb into the top, we'll throw myself off in an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. We may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. That only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to, well, who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, who if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
On est fan de cette reprise de Alone Again par Toc 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 sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Franck, il y a encore beaucoup de questions à régler avant un accord de cessez-le-feu. Fermez les guillemets. En Ukraine, ce commentaire vient donc aujourd'hui du Kremlin. Et ce soir, vous nous dites pourquoi Poutine est de moins en moins pressé de négocier une trêve au risque d'agacer Trump.
Pendant quelques semaines, l'Ukraine a été de retour au cœur de l'actualité. C'était, semble-t-il, la priorité de la Maison-Blanche. Donald Trump lui-même a relégué le sujet au second plan, en bouleversant notamment les marchés mondiaux après ses annonces sur les droits de douane. Mais hier soir, le président américain s'est fendu d'un commentaire à la presse à bord de son avion. « Nous aimerions que les Russes arrêtent. Je n'aime pas qu'ils bombardent sans interruption. » L'Ukraine a vécu vendredi une nouvelle tragédie. Une frappe attribuée à la Russie a fait 20 morts à Kryvyi Rih, dont 9 enfants. Trump trahit donc un peu d'impatience. Mais Moscou ne bronche pas. Le Kremlin redit aujourd'hui qu'une série de questions restent en suspens avant une trêve. Questions sur la démilitarisation de l'Ukraine ou le contrôle des groupes extrémistes, ceux que Moscou qualifie de nazis.
La Russie cherche à gagner du temps.
Dans les faits, les négociations du mois dernier entre États-Unis et Russie d'un côté, entre États-Unis et Ukraine de l'autre, n'ont presque rien donné. Poutine a refusé un cessez-le-feu validé par Kiev. Moscou a simplement accepté une trêve limitée en mer Noire et un accord sur un arrêt des frappes contre les infrastructures énergétiques. Accord tellement flou que Russes et Ukrainiens s'accusent chaque jour de l'avoir violé. En clair, rien n'a bougé et la Russie applique la même stratégie à imposer ses conditions. Rappeler qu'il faut d'abord lever les sanctions qui la visent.
Mais alors quel est le calcul de Poutine ?
Comme l'écrit dans The Atlantic le politologue américain Robert Kagan, une des figures de proue des néoconservateurs, Poutine pense qu'il est en train de gagner la guerre. Sur le front, ses troupes ont reconquis des territoires ces dernières semaines. L'aide à l'Ukraine s'assèche. La nouvelle administration américaine la remet en question presque chaque jour. Et l'Occident est plus divisé que jamais. Un objectif pour Poutine que Trump contribue grandement à lui offrir. Le président russe a sans doute adoré les annonces sur les droits de douane qui, en prime, ne concernent même pas son pays. Bien sûr, la Russie n'est pas qu'en position de force. Elle perd beaucoup d'hommes sur le terrain, son économie s'affaiblit, mais Poutine fait sans doute le calcul que l'Ukraine est en situation bien plus délicate. Il n'a donc aucun intérêt à accepter un cessez-le-feu dans ces conditions.
Voilà, du coup, qu'est-ce qu'il cherche ?
Alors, Poutine cherche un accord qui lui serait bien plus favorable. Des diplomates du monde entier ont longtemps imaginé un possible compromis entre Russie et Ukraine, impliquant des concessions territoriales, l'engagement de Kiev de ne pas rejoindre l'OTAN, des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais en fait, comme le dit un ex-diplomate russe, Poutine est plus ambitieux que cela. Il n'acceptera jamais des troupes étrangères en Ukraine, surtout venues de pays de l'OTAN, comme la France ou le Royaume-Uni. Il veut une Ukraine neutre, quasi démilitarisée, et bien sûr le départ de Zelensky au profit d'un pouvoir pro-russe. L'alternative, Fabienne, pourrait donc être la suivante. Soit Trump cède à ses énormes exigences de Moscou, soit il s'agace vraiment, durcit le ton avec Poutine et redonne espoir à l'Ukraine.
Franck Madvon, merci beaucoup. Vous reviendrez demain, Franck. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute le son que fait la planète en tournant. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, Cyril, la BO du monde est en Syrie, où la
Serbie,
où la jeunesse ne désarme pas face au régime du président Vučić. On est bien en Serbie. Les manifestations anticorruption se poursuivent et une chanson en particulier est devenue l'hymne officieux du mouvement.
Un tube ressurgit des années 80, du temps de la Yougoslavie. La plupart des manifestants n'étaient même pas nés quand il est sorti, mais on l'entend partout, reprise en chœur dans les manifs, comme ici à Novi Sad, la ville d'où tout est parti en novembre, après l'effondrement du toit d'une gare. Z Za Milion Godina, un million d'années, c'est le titre de cette chanson humanitaire datant de 1985, il y a 40 ans. À l'époque, les vedettes de la scène musicale yougoslave se réunissent en studio contre la famine en Afrique sur le modèle du Live Aid de Bob Geldof ou de SOS Éthiopie en France. Le projet You Rock Mission va devenir un phénomène générationnel et l'un des plus grands succès de l'histoire en Yougoslavie. Quelques années plus tard, quand la Yougoslavie va basculer dans la guerre, il deviendra inimaginable de réunir au même micro des artistes serbes, croates, bosniaques. C'est ce qui explique en partie la portée historique et symbolique de cette chanson. 40 ans après, la jeunesse serbe en a donc fait la bande-son de sa colère contre le pouvoir d'Aleksandar Vučić. Plusieurs groupes de l'époque, comme Génération 5 qu'on entend ici, ont tenu à prendre la parole dernièrement en soutien à ces tout jeunes manifestants de 2025.
Comme souvent dans le passé, Cyril, la scène musicale de Belgrade a pris ces derniers mois une dimension très politique.
Et cette fois, ce sont les clubs électro de Belgrade qui sont au cœur du mouvement. Comme le raconte très bien un reportage du magazine anglais Mixmag, la vie nocturne de la capitale serbe bruisse en ce moment d'un activisme jamais vu depuis les années 90. Époque où la jeunesse trouvait déjà, dans les premières rave parties, un échappatoire aux conflits qui ensanglantaient le pays. Extrait d'une compilation caritative parue en février, Rhythm of the Revolution, à l'initiative d'un label techno de Belgrade. Les fonds récoltés sont reversés aux étudiants pour financer l'organisation des manifs. Des clubs de la capitale se mobilisent, les artistes et les DJ eux-mêmes sont bien souvent impliqués dans le mouvement et le font savoir via les réseaux sociaux ou encore en animant des groupes Telegram. L'un d'entre eux, ça ne s'invente pas, s'appelle DJs for Students, les DJ avec les étudiants. Symbole des tensions qui traversent en ce moment la Serbie, le plus gros festival de musique du pays, le festival Exit, s'est retrouvé dans le collimateur des manifestants qui lui reprochent d'être en partie financé par le pouvoir. Les organisateurs ont dû se défendre publiquement de toute compromission. 6 mois après les premières manifs, les jeunes anti-Vučić maintiennent la pression. Des rassemblements ont encore eu lieu ce week-end. Ils appellent désormais l'Europe et les artistes européens, bien trop silencieux jusque-là, à les écouter et à soutenir leur combat.
Merci beaucoup Cyril, à lundi prochain bien sûr.